explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies et, au mépris du danger, avancer vers l'inconnu.
L'Océanie, Bora Bora, les Vainé, tu connais ?
Vous avez croyé que je vais plus regarder les paysages par le hublot ?
Sur France Inter,
j'ai des envies de voyage.
Le temps d'un bivouac !
Le temps d'un bivouac.
Je suis prêt.
Daniel Fievé.
Si vous deviez partir en expédition à l'autre bout de la planète vers des contrées encore inexplorées, vous choisiriez de vivre cette aventure en famille ou vous préféreriez être accompagné de scientifiques pour en profiter, pour approfondir nos connaissances sur la planète ? Guilin et Emmanuel Bardou ont décidé de ne pas choisir et de faire les deux. Sur leur goélette, le Wai, ils sont partis avec leurs deux jeunes enfants et plusieurs scientifiques pour une grande expédition à travers les océans à la découverte de la Twilight Zone. De quoi s'agit-il ? Lorsque l'on plonge dans l'océan entre la lumière du jour de la surface et l'obscurité absolue des grandes profondeurs, il existe une couche de moyenne lumière, c'est la Twilight Zone. Elle se situe entre 30 et 150 mètres sous la surface. Depuis peu, cette zone est devenue plus accessible aux plongeurs du fait des dernières avancées technologiques. C'est ce qui a conduit Emmanuel et Guilin Bardou à monter cette grande expédition de l'océan Arctique à l'Antarctique, en passant par le Pacifique et l'Atlantique. Nom de code de l'opération Under the Pole 3. Le premier volet de cette aventure, qui durera 3 ans, s'est déroulé l'été dernier dans l'océan Arctique. Et nous allons voir comment ça s'est passé.
Amis de l'aventure, l'aventure nous appelle.
Bonjour et bienvenue dans notre bivouac. Et bonjour à vous, Guilin Bardou et Cyril Gallu.
Bonjour.
Bonjour.
Soyez les bienvenus. Guilin Bardou, vous êtes l'initiateur des expéditions Under the Pole avec votre épouse Emmanuelle Bardou, qui est actuellement en Polynésie. C'est pour ça qu'elle n'est pas avec nous aujourd'hui. Cyril Gallu, vous faites partie des scientifiques qui ont participé à ces expéditions. Vous êtes biologiste marin, chercheur à l'Institut de Systématique, Biodiversité, Évolution au Muséum National d'Histoire Naturelle et à Sorbonne Université. On va pouvoir découvrir la dernière expédition à laquelle vous avez participé en Arctique, dans le mythique passage du Nord-Ouest, demain soir sur Arte à 18h dans un film intitulé Lumière sous l'Arctique, et vous allez tous les deux nous raconter cette aventure et ces plongées que vous avez effectuées dans les eaux glacées de l'Arctique. Voilà pour la feuille de navigation du jour. Cette émission est réalisée par Marion Lelay. Elle a été préparée par Sophie Vaux.
Tu peux me préciser, là je fais tribord tout et après je reviens à bâbord.
Pour le moment, peut-être un petit coup à bâbord. Ok, t'es au contact, tu peux passer.
C'est impressionnant, on a l'impression de foncer sur un mur de glace. Mais bon, souvent aussi, on a l'impression que c'est impossible.
Encore une centaine de mètres et après, c'est bien bouché. Hein.
Alors, j'allais dire souvent en avance et au fur et à mesure, on trouve des chenaux d'eau libre, mais en fait, peut-être pas. On va voir.
Et
on va faire une longueur de Wai et après il y aura un glaçon à pousser. Nous étions sur le Wai, c'est le nom de votre bateau, Guilin Bardou, l'été dernier. Et c'est Emmanuel Bardou, votre compagne, votre femme, qui est skipper et qui pilote ce bateau. On l'entendait, c'est particulièrement compliqué hein, de se frayer un passage à travers les blocs de glace dans ce mythique passage du Nord-Ouest. Situe-nous un peu l'endroit, justement.
Alors, le passage en question, c'est en plein milieu du passage du Nord-Ouest, dans les eaux canadiennes, à peu près en plein milieu, on va dire, de l'Amérique du Nord, dans cette zone avec des îles qu'on voit sur le haut de la carte. Ouais.
Hein, on est donc dans l'océan qui borde l'extrême nord du Canada.
Hein. Un tout petit peu plus au sud. En fait, ouais. L'océan, c'est vraiment l'océan Arctique entre le continent eurasien et le continent nord-américain. Là, on va dire qu'on est sur les bords de l'océan, on est dans ces mers intérieures entre l'Amérique du Nord et les îles qui le bordent juste au nord. Un fjord mythique, le Peel Sound, qui a bloqué les grandes expéditions au début du siècle en particulier et qui est encore le passage clé pour les glaces dans ce passage du Nord-Ouest.
Cyril Gallu, vous étiez à bord du bateau. Quand on entend ce son, certainement que ça doit vous replonger dans cette ambiance. Décrivez-nous les paysages qui étaient autour de vous.
Alors, le passage qu'on vient d'entendre, j'étais en fait dans le nid de pie avec la radio en train d'essayer de guider Manu pour trouver un passage à travers les glaces.
Ouais. Le nid de pie, c'est tout en haut du mât. Hein. Faut pas avoir le vertige là
Faut
dans cette
pas
petite
avoir le vertige.
Voilà, donc c'était vous qui guidiez dans le Talkie Walkie.
Absolument. Et ouais. En fait, c'était une journée magnifique, sans vent, avec une lumière vraiment très forte, et on voyait très très loin, et on voyait des morceaux de banquise à perte de vue. Et donc on était quelques minutes après, en fait, on s'est retrouvé coincé. On a dû attendre 2 jours que le vent se lève et que ça se décoince. Donc c'est des paysages à perte de vue. Une immensité extraordinaire, c'est vraiment impressionnant.
Ouais. Alors vous avez l'un et l'autre un attrait pour ces régions polaires. D'ailleurs, Guylain Bardoux, c'est la 3e expédition, hein, si on appelle ça Under the Pole 3. C'est qu'il y a eu Under the Pole 1 et Under the Pole 2. C'était quoi la première expédition ?
Alors, Under the Pole 1, c'était la naissance d'ailleurs, qui à l'origine n'avait pas forcément vocation à devenir une série d'expéditions. C'était un projet de jeune, j'avais 27 ans quand j'ai écrit ce projet. Je rêvais de région polaire, j'étais passionné de plongée et j'avais perçu un très très fort potentiel sur ce toit du monde. Qu'est-ce qu'il y a sous la banquise ? Qu'est-ce que ça cache ? Qu'est-ce qu'on va y trouver ? Voilà. Et c'est un projet qu'on a réalisé en 2010. Et puis, 3 années plus tard, on a réalisé la seconde expédition Under the Pole, d'une nature différente, mais toujours en Arctique, au Groenland cette fois-ci, et avec le Wye, ce formidable voilier d'expédition qu'on a acquis pour l'occasion, et qui nous servait de camp de base pour cette étude entre le sud et l'extrême nord du Groenland, en 2014 et 2015.
Ouais, et là, il s'agissait de faire des plongées records, en tout cas, il s'agissait de première, hein, aller jusqu'à 100 mètres de profondeur dans ces eaux glaciales qui bordent le Groenland, la côte ouest du Groenland.
Alors, c'était pas exactement dans l'idée de record. Notre quête était plutôt l'exploration sous-marine, pousser les portes, pousser les limites, aller voir à travers les saisons, aller voir à travers les degrés de latitude nord le plus loin possible, aller explorer avec un regard naturaliste, essayer d'en ramener des images, essayer de raconter ces régions qu'on connaît très mal d'un point de vue de l'exploration sous-marine. Je dis souvent, les régions polaires, c'est les dernières à avoir été explorées géographiquement au début du siècle, il n'y a pas si longtemps que ça. Et aujourd'hui, en fait, il y a une nouvelle exploration qui ne fait que commencer et il y en a pour une éternité, c'est l'exploration sous-marine. Tout est à faire.
Oui, c'est ça. Quand je disais record, ça veut dire que c'est la première fois qu'on y allait. C'est pas tant le record pour le record. C'est-à-dire qu'on n'y est pas allé avant, quoi.
C'est ça. Et c'est vrai qu'on a complètement bousculé les limites de la plongée polaire parce qu'on y est resté très longtemps, parce qu'on s'y était préparé, on s'était donné les moyens, on s'entraînait pour. Et surtout, on a pris le temps. Voilà.
Et quand on prend le temps, parfois ça permet de faire des belles rencontres, comme croiser la route de requins du Groenland.
Au bout de 5 minutes de plongée, j'ai devant moi un requin qui arrive. Et c'est un deuxième, c'est pas le même, il a pas les mêmes traces. Donc c'est un deuxième requin, il arrive face à moi. Et puis quand on est à 3-4 mètres, hop, il tourne, il s'en va vers le large. Donc on le suit, et à nous quatre, on reste très près. On le voit qui tourne, qui tape la paroi. Et c'est encore plus incroyable, ça confirme qu'on est vraiment à un endroit où ils vivent et donc on est bien dans leur milieu.
C'est ce que Tonio et moi on était un peu court, ça faisait un moment qu'on était au fond et on était un peu limite en air, donc on est remonté.
Vous avez nagé avec un requin ?
Ouais,
vous avez vu deux ?
Sans déconner !
Ouais, c'est vrai, c'est dans les vidéos. Wouhou.
Je crois que c'est une des plus belles plongées de ma vie.
Et Sylvain, toi, 3e plongée, paf, 2 requins du Groenland.
Ouais, c'est clair.
La visite.
La visite.
T'aurais pas pu arriver plus tôt, Sylvain, avant nous.
Ouais. Demain, les narvals, les gars.
Ouais, demain, je plonge.
Ouais. Luca Stantucci, plongeur et photographe, qui dit, en sortant de cette plongée, j'ai l'impression d'avoir fait la plus belle plongée de ma vie. Qu'est-ce qu'il a de si particulier, ce requin du Groenland ?
La rareté, tout simplement. C'est un des plus grands requins de la planète. C'est aussi l'un de ceux qu'on connaît le moins bien. Pourquoi ? Parce que c'est un de ses habitants polaires. Donc c'est des observations qui sont plus difficiles. En plus, c'est un requin qui vit essentiellement dans les grandes profondeurs, à plusieurs centaines de mètres, voire plusieurs milliers de mètres de profondeur. On le connaît mal. On ne sait même pas s'il est charognard, s'il est capable de prédation. Les deux théories circulent selon qu'on discute avec des scientifiques, des pêcheurs, des Inuits. On entend différentes histoires. Voilà. Mais en fait, on a peu de certitudes. Mmh. Néanmoins, c'est un requin qui a fait parler de lui l'année dernière parce qu'il y a cette équipe de scientifiques internationales avec laquelle on a travaillé sur cette expédition au Groenland qui a fait une remarquable publication démontrant que le requin du Groenland, c'est l'animal vivant qui auraient la plus grande longévité sur Terre, entre 200 et 400 ans. Ouais. C'est assez remarquable, c'est des animaux qui ont connu la Révolution française, c'est fascinant.
Oui, enfin, ils n'étaient pas forcément au courant, mais ils étaient là sur Terre au moment où ça s'est produit.
Il va avoir beaucoup de choses à raconter. Ouais. Et il y a un autre point qui est très important, c'est aussi qu'ils ont une maturité sexuelle tardive, 150 ans. Et ça, ça nous alerte, parce que c'est exactement ce genre d'observation, de constat, de découverte, aussi qui permettent de diagnostiquer des espèces en danger, par exemple, parce que une surpêche, par exemple, de ce requin pourrait la mettre en danger, tout simplement parce que les espèces ne seraient plus capables en fait de vivre suffisamment longtemps pour se reproduire, voilà. Et donc c'est là on rejoint la nécessité absolue justement de la science, de la connaissance, de cette exploration qui est nécessaire pour mieux connaître ces espèces, en particulier de l'Arctique, puisque c'est notre terrain de travail, mais d'une manière plus générale, à travers le monde. Ouais. Cette quête de la connaissance est fondamentale.
En vous entendant, on comprend qu'après Under the Pole 2, vous ayez eu envie de repartir pour cette grande aventure, Under the Pole 3. Quel est le parcours pour Under the Pole 3 ?
Under the Pole 3, c'est un tour du monde qui a commencé il y a un an, hein, en 2017. Un tour du monde par les régions polaires. On a fait ce passage du Nord-Ouest à travers l'Arctique l'été dernier avec Cyril. Ce printemps, le Y a traversé le Pacifique du Nord vers le Sud. Il est arrivé il y a 10 jours en Polynésie française, à Tahiti. Ça va être son terrain pour la prochaine mission qui va durer 15 mois. Et puis, dans un an et demi, route vers l'Antarctique, avant de remonter à travers l'Atlantique pour un retour en France en 2020.
Alors vous allez nous raconter dans cette émission le premier volet de votre expédition qui s'est donc déroulé l'été dernier dans le Grand Nord. 8000 km parcourus dans un monde arctique en pleine évolution. Des dizaines de plongées que jamais personne n'avait faites avant vous. Cet après-midi, on embarque avec Guylain Bardou et Cyril Gallu, le temps d'un bivouac sur France Inter.
On a déjà volé des nuits, on a déjà foulé l'ennui, sans s'ennuyer, toucher les cimes, on a déjà frôlé l'ultime, on a déjà vu la couleur.
C'était On a déjà Holidays sur France Inter.
En fait, là, même si on faisait le tour, même par la côte nord, là, faudrait que ça s'ouvre un peu plus, quoi.
Je pense que c'est en train de fondre. Avec un peu de peau, ce sera dégagé d'ici qu'on arrive dans 3-4 jours.
Il se dit cette année qu'il a fait très froid et que ce ne sera pas forcément l'année la plus facile dans le passage. On va voir ce qu'il en est.
Ça, que tu veux ?
Il y a tout le monde ? Ouais, donc on vient de checker la météo et les dernières cartes de glace. Météo excellente.
On part. L'enthousiasme de l'équipage du Wye avant de se lancer dans le mythique passage du Nord-Ouest qui s'ouvre brièvement pendant le mois d'août et qui permet de faire en bateau la jonction entre l'océan Atlantique et l'océan Pacifique. Nous sommes donc à l'extrême nord du Canada, dans des eaux arctiques. Avant de se lancer dans ce type de navigation, Guylain Bardou, il vaut mieux consulter la météo marine. Et encore, ça suffit pas toujours.
Ah bah clairement, la météo, les modèles de prévision ne sont pas du tout aussi développés qu'ils le sont ailleurs, puisque de toute façon, c'est encore une fois l'économie qui régit souvent ça, et les routes maritimes étant peu fréquentées, les modèles de prévision sont pas aussi affûtés qu'ils peuvent l'être sur les grandes baies maritimes de l'Atlantique ou du Pacifique, par exemple.
Alors là, dans l'extrait, on entend l'enthousiasme de l'équipage quand, après avoir consulté la météo, on se dit on peut y aller. La règle du jeu, c'est d'y aller au moment où la glace fond et on aura juste le temps de passer avant qu'elle se recristallise derrière nous. Dans quel état d'esprit vous étiez, Cyril Gallu, très honnêtement? Il y a une petite appréhension avant de partir dans ce passage où le bateau, concrètement, risque à un moment donné de rester coincé.
Appréhension, je dirais pas. Excitation, ça c'est sûr. Ouais. C'est quand même un voyage assez fou et c'est une occasion unique dans une vie. Donc au moment où on a le feu vert pour partir, c'est vrai qu'il y a une excitation extraordinaire.
Pas d'appréhension pour vous non plus, Guylain?
Pas forcément d'appréhension, mais de la vigilance, de la tension, parce que ça reste un milieu qui est difficile et qui est plein d'inconnus, en fait. On ne sait pas où on va toujours. La glace, elle bouge. La prévision qu'on a eue 3 jours avant n'est plus forcément valable au moment d'arriver. Et puis, il n'y a pas de prévision tous les jours. Donc, il y a des fois, c'est un peu tricky, c'est un peu touchy. Mais c'est ça, en fait, l'exploration. Ouais. C'est justement ça, et c'est ça qui est extraordinaire.
Alors, vous étiez sur les traces d'illustres prédécesseurs. Hein, par le passé, des expéditions ont emprunté ce passage du Nord-Ouest. Pour certaines, ça s'est mal passé, hein, d'ailleurs. Franklin, l'expédition Franklin, au 19e siècle, ils ne sont jamais revenus.
Ça a été l'une des plus grandes tragédies de l'exploration humaine, tout simplement. Il y en a eu beaucoup, mais ce qui caractérise l'expédition Franklin, c'est qu'il n'y a pas eu de survivants. Ça devait être la plus grande exploration de l'amirauté britannique, avec des moyens colossaux, 2 navires, les meilleurs équipages, les plus gros moyens pour tenter de percer ce fameux passage du Nord-Ouest. Et ça a été un fiasco retentissant, une tragédie qui a duré 3 années, 3 hivernages, aucun survivant. Et ce qui est assez formidable, c'est que finalement l'histoire de cette tragédie s'est bâtie sur quelques traces qu'on a retrouvées. Il y a eu 19 expéditions d'exploration de secours qui ont suivi, avec à nouveau des tragédies d'ailleurs.
Oui, oui.
Et en 2016 et en 2014, on a retrouvé les 2 épaves qui ont coulé dans ce passage du Nord-Ouest. C'est une des plus grandes découvertes du siècle en termes d'archéologie marine et d'archéologie polaire. Et ça va complètement bouleverser justement cette histoire, parce que les plongeurs, les archéologues vont pénétrer les épaves, vont tomber sur des archives, des journaux de bord. Une des 2 épaves, le Terror en particulier, a coulé fermé. C'est-à-dire que l'équipage a fermé les portes, les écoutilles, a abandonné le navire pour tenter sa chance par voie de terre, et le bateau a coulé tel quel. Et là, ils l'ont ouvert pour la première fois, c'était en août l'année dernière. C'est extraordinaire, c'est une des plus belles histoires que je connaisse, ouais, et que je vais suivre dans les années qui viennent.
Alors, celle-là est terrible, hein, d'histoire, évidemment, cette expédition qui tourne mal. Il y en a d'autres qui se sont mieux passées, notamment celle de Anmussen, qui lui, on est au tout début du XXe siècle, réussit pour la première fois la traversée de ce passage du Nord-Ouest.
C'est 60 ans plus tard, hein, ouais, grosso modo. Et Anmussen, C'est l'opposé de la tragédie de Franklin. Franklin, c'était 129 hommes d'équipage, la grande expédition à l'européenne. avec un modèle très européen, justement, très occidental, je dirais. Amundsen, c'est différent. C'est les Norvégiens qui ont une approche très différente, basée sur une expérience polaire, déjà, et puis beaucoup plus dans l'imitation, dans la reproduction des techniques inuites, en particulier. Mmh. Et ils sont partis à 6, sur un petit bateau, la Gjøa. Et ils ont mis 3 hivers également à franchir le passage du Nord-Ouest. Ouais. 3 hivers pris dans les glaces. Et ils l'ont franchi, ça a été un succès. Ouais. Ça n'a pas été facile non plus, mais elle aussi, une des expéditions les plus marquantes de l'exploration polaire.
Parce qu'à l'époque, la glace était plus épaisse, plus importante, et le bateau, pour traverser, est resté emprisonné 3 hivers de suite avant de réussir à passer. Vous, vous avez fait ça dans un temps beaucoup plus court, hein. C'était le temps d'un été. Mais toutefois, vous le disiez, hein, Cyril Gallu, à un moment, le bateau est quand même resté immobilisé, s'est bloqué dans les glaces. À ce moment-là, on ne sait pas combien de temps ça va durer.
En effet, on n'a aucune idée de combien de temps ça va durer. Ça peut durer quelques jours, quelques heures, ou ça peut durer un été, voire l'hiver suivant.
Et donc alors à ce moment-là, vous disiez que vous partiez confiant. À ce moment-là, une inquiétude commence un peu à poindre quand même ?
Forcément, surtout quand ça commence un peu à durer.
Ouais. Là, ça a un peu duré, le bateau donc s'immobilise, mais c'est l'occasion d'observer les ours polaires.
2 heures, hein. 2 heures, 300 mètres environ.
Pour l'instant... On voit rien.
2 heures, 300 mètres.
Mais voilà, donc c'est le branle-bas de combat. Tout le monde s'est levé et cherche l'ours.
Dans le
dans
trémo,
la banquise,
là.
T'as une grosse langue épaisse et après t'as un trou d'eau.
Ouais, je vois. Magnifique.
Observer les ours, là, ça fait oublier un temps qu'on est coincé dans le pack et qu'on ne sait pas tout à fait quand on va repartir et qu'on traverse quand même un moment de doute, là. Ça rappelle aussi qu'il y a beaucoup d'ours dans la région et que si on devait être amené à y passer beaucoup de temps, ce serait un paramètre à prendre en compte. Et là, je ne sais pas si c'est dû à la banquise qui est relativement épaisse. Ils sont vraiment... ils sont beaux, ils sont gros, ils sont en bonne santé. Je pense que ça doit être leur deuxième année aux oursons parce qu'ils sont déjà bien grands, bien gros. À mon avis, ils vont bientôt partir vivre leur propre vie tout seuls.
Guylain Bardou, on a l'impression qu'à ce moment-là, hein, quand le bateau est bloqué, pendant, ça va durer 2-3 jours, vous n'avez qu'à observer autour de vous, vous ne pouvez faire que ça. On a l'impression que c'est un sentiment un peu ambivalent qui règne à bord entre inquiétude et émerveillement.
C'est ça, c'est beau d'ailleurs ce qu'on vient d'entendre, c'est un extrait du film et je me replonge dans le live de cette expédition. Ce passage dans le Pilsand, en plein milieu du passage du Nord-Ouest, quand on était bloqué dans les glaces, là, comme le disait Cyril, c'est un de mes plus beaux souvenirs. Pourquoi ? Parce qu'on est au bout du monde, littéralement. C'est des régions qui sont lointaines, qui sont très très difficiles d'accès, infiniment sauvages. On a vraiment l'impression d'être dans un monde en fait où l'homme est quasiment absent. Et on a cette capacité d'observer le monde sauvage dans toute sa force, dans toute sa brutalité, dans toute sa pureté, et l'ours polaire le symbolise parfaitement. Et voilà, comme le dit très bien Emmanuel, observer des ours polaires avec une mère, avec ses deux petits, on a vu des mâles aussi un peu plus loin, parcourir la glace, chasser, monter sur la berge pour essayer de manger des œufs d'oiseaux. On les a observés longuement, et c'est un moment d'une intensité qui est extraordinaire, en fait, qui nous touche profondément. Oui, en même temps, c'est vrai qu'il y a cette dualité, parce que, Cyril l'expliquait, on ne sait pas, en fait, c'est assez probable qu'on soit libéré des glaces, mais ce n'est pas certain. Il y a des années, ça ne s'est pas ouvert, hein, même les dernières années. Il suffit d'avoir un vent du nord, un vent d'est, qui nous pousse un petit peu plus loin et qui finalement, au lieu de nous éloigner, nous enferme dans un piège, nous enfonce de plus en plus loin dans la glace pour se faire piéger l'hiver d'après. Ouais. Et c'est ce qui est arrivé à Franklin. C'est comme ça qu'ils se sont fait prendre et qu'ils ont fini par mourir.
On l'a en tête, ça, à ce moment-là, justement, les histoires passées. On se les repasse ou on essaie d'éviter d'y penser ?
Non, on l'a constamment en tête parce que ça nous passionne, parce qu'on on s'en inspire, on lit cette littérature, on voyage à travers l'histoire aussi. Hein, c'est le passage du Nord-Ouest, c'est un formidable voyage dans l'histoire. Maintenant, l'exploration d'aujourd'hui est d'une autre nature. Ouais. Hein, c'est sûr que l'engagement n'a rien à voir avec celui qu'il était à l'époque. Aujourd'hui, on appuie sur un bouton, on a des secours. Les ouais. problématiques sont plus en termes de coûts, en termes de... Mais d'ailleurs, c'était déjà le cas à l'époque. Hein, ça n'a pas changé.
En tout cas, ce qui a changé par rapport à cette époque, c'est, on l'a dit, la glace, hein, qui a quand même sérieusement diminué entre aujourd'hui et le siècle passé. D'ailleurs, les Inuits ont vu leur environnement changer au cours des dernières décennies. Vous avez recueilli leurs témoignages.
Avez-vous remarqué des différences depuis que vous êtes enfant ?
Oui, oui, de grosses différences.
Au niveau de la glace ou par rapport aux animaux ?
Les deux, mais surtout la glace. Pour moi, les changements concernent la glace et la neige parce que nous adorons le printemps quand nous voyageons sur la neige et sur la glace. Mais cette année, la période de glace est beaucoup plus courte. Chaque année, c'est de plus en plus court.
Avant, quand je faisais un trou dans la glace, au bout de 48 heures, je devais le creuser de nouveau car il se bouchait. Maintenant, quand je fais un trou dans la glace, il s'agrandit tout seul.
C'est aussi ça, hein, Guylain Bardou, le but de vos voyages et de vos expéditions, témoigner, donner la parole aux Inuits, aux Groenlandais que vous avez rencontrés.
Oui, parce que les écouter, c'est, je pense, absolument fondamental, parce qu'ils ont des choses intéressantes à dire. Parce qu'on doit écouter les peuples qui bordent ces régions, même s'ils sont pas très nombreux. Et surtout, il faut pas s'enfermer dans notre vision étriquée qu'on peut avoir en Europe, par exemple, en France en particulier. Il faut s'ouvrir et il faut écouter les autres. Ça, je pense que c'est absolument fondamental. Les Inuits, les Groenlandais ont beaucoup de choses à nous apprendre. Il ne faut pas le perdre de vue. Ouais.
Voilà. Cyril Gallu, vous qui étiez aussi allé en Antarctique, donc côté pôle sud, mais là il n'y a pas d'habitants, il y a les scientifiques, des gens de passage, mais il n'y a pas d'habitants, de locaux. Là c'est la différence. En découvrant l'Arctique, c'est aussi la rencontre de peuples, de populations, de cultures à laquelle vous vous êtes confronté.
C'est vraiment ce qui m'a frappé en arrivant au Groenland. Et c'est l'énorme différence avec l'Antarctique. En Antarctique, il n'y a que des scientifiques, que des techniciens, des gens qui viennent de l'extérieur, mais pas de population qui vit sur place. Au Groenland et dans tout l'Arctique, il y a des gens qui vivent là depuis des millénaires. Et pour eux, c'est pas une exploration, c'est leur quotidien. Ouais. Et pour moi, c'était vraiment quelque chose d'important de ressentir ça, parce que nous, on vient en explorateur, on vient avec notre vision occidentale, mais les gens, eux, ils sont habitués à cet environnement, ça n'a rien d'extraordinaire, c'est chez eux, c'est leur quotidien. Et ça, c'était vraiment une prise de conscience pour moi, qui avait l'habitude du monde polaire, mais un monde polaire inhabité, au moins du point de vue des humains.
Et en tant que biologiste, ce changement climatique, ce changement de nature de glace, ça a quel impact sur leur environnement et sur la biodiversité qui les entoure ?
Les impacts sont nombreux. La première chose qu'on peut noter, c'est qu'avec le réchauffement de l'eau, les espèces vont avoir une répartition de plus en plus nordique. Donc dans certains cas, ça peut avoir présenté des avantages. Certaines espèces de poissons vont se retrouver plus au nord et donc vont présenter un intérêt pour la pêche. Mais on peut avoir aussi le corollaire qui est que certaines espèces qui étaient présentes vont disparaître et donc ne plus être accessibles pour la pêche, pour les populations locales. Et plus on va vers le nord, plus l'impact est important. Et ça, c'est pour ces populations qui ont que la mer comme ressource. Il n'y a pas d'élevage, il n'y a pas d'agriculture. Donc c'est uniquement les produits de la mer qui vont leur permettre de subsister. Évidemment, l'impact du réchauffement climatique peut être dramatique pour eux.
Alors, tout au long de votre périple de 8000 km dans le Grand Nord, vous avez aussi effectué des plongées dans des lieux et à des profondeurs que personne n'avait exploré avant vous. Et vous allez nous raconter ces plongées dans la suite de ce temps d'un bivouac. I'm just a poor boy. You.
close your eyes and see it through. Chaos comes and collects the youth. I can feel the cold air when the night comes. Heaven's only wish.
C'était Evans Only Wishful sur France Inter, le temps d'un bivouac par Mormor.
Alors là, on part faire une plongée scientifique. Voilà, les conditions sont plutôt faciles. Hein. On a une température extérieure qui est de l'ordre de 10-12 degrés, donc c'est très confortable. Et puis l'eau, je ne sais plus exactement, mais elle doit être à 7-8 degrés. C'est les meilleures conditions, je pense, qu'on puisse avoir en Arctique pendant l'été.
Je me repasse toute la plongée dans la tête avant d'y aller pour qu'une fois que je sois sous l'eau, ce soit efficace. C'est quand même toujours des plongées assez compliquées, assez engagées, donc il faut être bien concentré dans ce qu'on fait. Je suis sûr que ça va être extraordinaire. J'ai toujours une découverte. C'est génial ça. J'ai hâte. J'ai hâte d'y être.
Un nouvel extrait du doc Lumière sous l'Arctique qui sera diffusé demain soir à 18h sur Arte. C'était vous, Guylain Bardou et Cyril Gallu, que l'on entendait en pleine préparation juste avant de plonger dans ces eaux froides de l'Arctique. Ce sont des plongées engagées, compliquées à réaliser, Guylain Bardou.
Oui, c'est des plongées difficiles pour plusieurs raisons. On est au bout du monde. Donc déjà, faut s'y rendre. Et puis, il se trouve que la plongée, ça nécessite pas mal de matériel, d'équipement, tout ça. Donc c'est toujours compliqué. C'est une des raisons d'ailleurs pour laquelle il y a eu si peu de travail de fait. Après, il y a le froid. Le froid est difficile, très difficile pour nous, pour l'homme, parce que ça nous fait souffrir. Et puis pour le matériel aussi, ça pose des problèmes techniques. Ouais. La glace, par exemple. Mais voilà, donc c'est un environnement qui est difficile, mais pour notre plus grand bonheur, quelque part, parce que nous, on fait partie d'une génération qui a cette chance d'avoir un terrain d'exploration gigantesque. On parle d'un océan, hein, et je et on pourrait même parler de deux océans, parce qu'il y a, le sud, c'est la même chose dans le sud. En fait, il y en a pour des générations d'exploration à faire, et ça, c'est un message qui est extrêmement positif à tous les passionnés et à tous ces jeunes demain qui reprendront le flambeau et qui deviendront biologistes pour aller explorer ce qu'on ne connaît pas encore.
Ouais. Cyril Gallu, pour qu'on se représente bien ce que ce sont ces plongées, c'est 2 à 4 heures avant de plonger, rien que pour s'équiper, c'est 80 kilos de matériel à transporter. J'en rajoute ou c'est ça?
On rajoute un tout petit peu, mais c'est à peu près ça.
Dites-moi le vrai.
Il faut bien 2 heures de préparation, c'est sûr. C'est à la fois la préparation technique, mais c'est aussi tout simplement l'équipement. Il faut passer une combinaison, des sous-couches isolantes. Ensuite, il faut gréer son matériel, vérifier, revérifier nombreuses fois avant d'y aller. On peut pas se permettre d'avoir un problème sous l'eau parce qu'on a oublié un détendeur ou d'ouvrir un bloc. Donc c'est... En effet, c'est énormément de préparation en amont. On n'a pas le droit à l'erreur. Il faut vraiment tout prévoir avant de partir.
Et puis, je voulais juste réagir aussi parce que c'est vrai que ces programmes sont difficiles. C'est difficile d'aller dans l'eau, mais on y va toujours avec un objectif de travail. Et au demeurant, avec Cyril, c'était un travail de biologiste, de prélèvement. Et quand on y va, on essaie d'être opérationnel sous l'eau. Voilà, on se met pas à l'eau pour 5 minutes avec tous les efforts qu'on a fait en amont, mais aussi qu'à mobiliser une équipe importante. Voilà.
Ouais. Et alors, qu'est-ce que vous aviez justement en tête? Il y avait alors une des thématiques principales de cette expédition, c'était s'intéresser à la bioluminescence et à la fluorescence. Alors, c'était pas directement votre sujet à vous. Hein, vous étiez avec d'autres scientifiques, mais puisque c'est vous que nous avons avec nous, Cyril Gallu, quel était l'intérêt de s'intéresser à la bioluminescence et à la fluorescence dans cette zone-là?
Donc, ce programme était porté par un collègue du CNRS qui s'appelle Marcel Coquen. Et l'intérêt, c'était déjà de voir si on pouvait trouver des organismes qui étaient à la fois soit bioluminescents, soit fluorescents. Donc c'était en quelque sorte un inventaire. Quasiment rien n'était connu sur cette faune en Arctique du point de vue de ses caractéristiques très particulières. La bioluminescence, c'est la création de lumière par un organisme vivant. Alors, il y a différents mécanismes qu'on peut évoquer. Soit l'organisme réémet une lumière qu'il reçoit sous une autre forme, soit il est lui-même émetteur de lumière.
Quand il réémet, c'est de la fluorescence, c'est ça? Et quand il crée lui-même de la lumière, c'est de la bioluminescence?
Absolument. Donc, on a essayé de trouver les organismes en Arctique qui pouvaient produire de la lumière. On ne savait rien, en fait, quasiment au départ de l'expédition. C'est ça qui était extraordinaire, c'est que c'est le propre de la recherche, c'est partir à la découverte, essayer de trouver. Ouais. On a, je crois, testé à peu près 80 espèces différentes pendant cette expédition. On a trouvé quelques espèces qui étaient fluorescentes.
Alors, quand vous dites tester, c'est-à-dire que là aussi, c'est une façon de plonger assez originale. Vous avez des lumières particulières, vous avez des lunettes aussi particulières. Il y a une ambiance un peu boîte de nuit dans ces plongées que vous avez menées en Arctique.
Ouais, c'est ça. D'ailleurs, ils mettent des lumières de la même nature dans les boîtes de nuit.
Ça aussi, ça crée une ambiance toute particulière. Hein. C'est toute une atmosphère que vous installez.
Et ça nous permet de voir des choses qu'on ne verrait pas en fait naturellement avec la lumière naturelle, ou si on s'affranchissait de ces lunettes qui sont en fait des filtres et qui vont permettre de révéler cette fluorescence qu'on recherchait.
Ouais. Qu'on ne verrait pas nous avec nos yeux. Ce qui est important d'avoir à l'esprit, c'est que les organismes qui vivent dans l'eau peuvent, le cas échéant, percevoir ces lumières.
Ces lumières, ces lunettes, c'est pour percevoir des longueurs d'onde que nous, on ne voit pas, mais que les autres êtres vivants peuvent, eux, percevoir. Vous regardez le monde avec d'autres yeux.
Exactement.
D'autres yeux. Et vous faites quelquefois des trouvailles lumineuses.
Qu'est-ce que vous avez trouvé?
Cyril a trouvé un oursin qui apparemment fluoresce. Il ne m'a pas dit où et comment. Et on va voir sous la loupe.
Ah, super. Allez.
Hop. Waouh. Donc il a des petites...
Il fleurisse vraiment beaucoup celui-là.
Oui, il est joli.
Tu t'attendais à ça, Marcel?
Non.
C'est l'instant. Vrai.
J'ai jamais vu un truc où un oursin fait ça.
Ah ouais.
Sous la loupe et la lumière UV de Marcel Coquen, cet autre scientifique qui vous accompagnait, un oursin révèle une forme de fluorescence. Ça, c'est quelque chose d'étonnant ?
Particulièrement en Arctique, puisque finalement, sur les 80 espèces qu'on a testées, il y en avait très peu qui étaient luminescentes. Ouais. Et donc, cette espèce-là avait vraiment des motifs colorés qu'on pouvait révéler grâce aux lumières UV, qui étaient vraiment extraordinaires. C'était très, très beau, déjà.
Oui, c'est vrai que c'est beau. Et puis, on a l'impression que tout un monde caché se révèle, un peu comme un code secret auquel nous n'avions pas accès immédiatement.
C'est tout à fait fascinant parce que on n'en est qu'au début des études sur ce domaine et on sait assez peu de choses. Finalement, on ne sait pas forcément à quoi ça sert. Est-ce que c'est un moyen de communication avec d'autres individus de la même espèce? Est-ce que c'est un moyen de défense? On ne sait pas beaucoup de choses pour l'instant.
Et à quoi ça pourrait servir? Parce que du coup, ce sont des nouvelles molécules que nous découvrons, ces molécules fluorescentes. Ça peut avoir une utilité, Guylain?
Alors, elles ont énormément d'applications dans le domaine pharmaceutique et médical. Ouais. C'est pour ça que ça intéresse autant les scientifiques et les laboratoires. C'est des applications qui ont été découvertes dans les années 60 et d'ailleurs qui ont été récompensées par un prix Nobel il y a quelques années pour des travaux de recherche justement sur les applications de ces molécules fluorescentes. Ouais. Et c'est pour ça qu'on les cherche, on les traque à travers le monde. C'est comme disait Cyril, des travaux qui sont assez récents et dont on sait peu de choses, mais chaque année, il y a de nouvelles espèces qui sont découvertes, essentiellement dans les eaux tropicales, mais pas seulement, dans tous les océans du monde, finalement.
Alors, à bord de ce bateau, il y a les scientifiques, on l'a compris, les équipes techniques, et puis il y a vos deux enfants qui partagent avec vous cette aventure, l'occasion pour eux de découvrir plein de choses et d'assister à des spectacles grandioses de la nature, comme à la fin de votre périple, cette rencontre avec des baleines.
Regarde! Les baleines, Robin, là, 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 elles sont là, à côté! Robin, regarde là-bas, là-bas, regarde!
Regarde là, juste là.
Elles vont ressortir devant le bateau, Robin.
Ce sont des moments inoubliables que vous offrez, Guylain, avec votre femme Emmanuelle Bardot, à vos enfants. On se dit, c'est incroyable ce qu'ils vivent grâce à vous.
C'est certain, c'est des rencontres qui sont magiques pour tout le monde. Et je pense que un enfant qui voit des baleines, c'est des très très gros animaux. C'est parmi les plus gros animaux de la planète. C'est fascinant. Alors, je suis absolument convaincu que c'est des moments privilégiés. Et même si nos enfants sont jeunes...
Quel âge ils ont, vos enfants ?
Tom a 2 ans et Robin a 6 ans.
Ouais. Donc lui, il est déjà plus en mesure de se souvenir plus tard de ce qu'il aura vécu
lors de ses
expéditions. Ouais, vous avez hésité avant de vous lancer dans cette expédition qui mêle donc vie de famille, on l'a compris. Et puis, c'est une vraie expédition avec des scientifiques qui sont là avec des missions, des buts précis.
Je dirais pas qu'on a hésité, mais on s'est posé beaucoup de questions. On n'a pas hésité parce que c'est un choix de vie, et c'est un choix qui est incontournable. C'est-à-dire que pour faire ce qu'on fait, on ne peut le faire qu'en famille, parce que c'est des projets de vie qui nécessitent un investissement colossal, et il n'était pas question de couper à cette vie de famille. Voilà, donc c'est un choix qui est assumé. C'est un modèle qui nous plaît, c'est un modèle qui fonctionne assez bien, d'ailleurs, qui est pas commun, mais qui a beaucoup d'intérêt.
On va demander aux scientifiques, Cyril Gallu, le fait d'avoir ces deux enfants dans les pattes à bord, dans le bateau, puisque il est une quinzaine de personnes, c'est un bateau d'une quinzaine de mètres.
Alors en général, il fait presque 20 mètres, 19,50 mètres. En général, on est 12 à bord. 12, c'est déjà bien chargé. Mais pendant le pile 100, il se trouve qu'à un moment donné, on a été 17 à bord.
17.
Ça le fait, mais il ne faut pas faire ça trop souvent non plus.
Témoignage, le fait d'avoir des enfants à bord, on imagine que ça joue sur l'ambiance générale.
Ah, ça amène de la joie, ouais. C'est sûr. Moi, j'ai fait plusieurs expéditions dans des cadres différents, plus formels. Et franchement, j'ai adoré avoir les enfants à bord parce que ça amène un autre regard, une joie de vivre, une présence. De temps en temps, même si c'est pas notre rôle à bord, de temps en temps on passe du temps avec eux à jouer, ouais. simplement à faire un dessin, et c'est aussi ouais. une autre manière de temps en temps, quand justement 17 à bord, on se marche un peu sur les autres, ouais. c'est une façon de s'évader aussi. Ouais.
Et certainement aussi on doit se sentir plus obligé de faire des efforts quand il y a des enfants. Quand on est adulte, on doit bien se tenir quand il y a des enfants, alors on prend sur soi.
Exactement. Ouais. Et ça c'est quelque chose que nous on a réalisé après North Pole 2 quand ouais. un peu comme un bilan, on s'est rendu compte que pendant 2 années d'expédition, un hivernage, on était les uns sur les autres, avec une charge de travail élevée, c'est 7 jours sur 7, il n'y a jamais de congé, c'est extrêmement intense, et en fait, il n'y a jamais eu de tension, il n'y a jamais eu un mot au-dessus de l'autre, mmh. et on était tous passionnés, on était tous camarades, mais très clairement, j'en suis absolument convaincu, la présence d'enfants à bord, on avait un chien aussi, Kayak, mmh. Ça joue un rôle parce que en présence d'enfants, justement, un groupe d'hommes, un groupe d'adultes, d'hommes et de femmes, hein, j'entends, ne se comporte pas de la même manière. Et finalement, les libertés, les coups de gueule qu'on peut se permettre quand on est entre nous, bah, on les modère quand justement il y a des jeunes parmi nous, et bah, on laisse un peu passer le temps et la pression retombe, et puis
on
s'efface dans la discussion un peu plus tard.
Et on repart parce que l'aventure Under the Pole est loin d'être terminé. Le bateau a ensuite mis le cap sur Hawaï, puis sur les atolls polynésiens. Nous allons nous réchauffer un peu dans un instant dans les lagons de Polynésie. Le temps d'un bivouac sur France Inter. Vous avez reconnu Björk, c'était Earth Intruders sur France Inter, le temps d'un bivouac.
J'ai pas beaucoup dormi la nuit dernière, donc je suis un peu fatigué quand même. Et demain on doit plonger, et là il est minuit, et la météo elle est pourrie, et on connaît pas le coin, et on a un mouillage foireux.
Guylain Bardou en grande forme, hein, à la barre de son bateau, le Wai. Il y en a beaucoup, des moments de découragement comme ça, quand on voyage et on a l'impression qu'on ne profite plus vraiment de tout ce qui est autour de nous.
Oui, il y en a beaucoup. Mais c'est, c'est pas le plus important. Il y en a beaucoup parce que c'est pas facile. Hein. Ouais. C'est pas facile de faire des programmes d'exploration comme ça. C'est en fait c'est un parcours du combattant permanent, que ce soit pendant les années de préparation, que ce soit dans la réalisation. Bah parce que c'est dur et que faut aller les chercher un petit peu ces résultats, faut aller les chercher ces régions lointaines et difficiles d'accès. On le fait pas tout seul, il y a une dimension humaine qui rentre en jeu également. Voilà. Donc tout ça, c'est pas tous les jours facile, mais évidemment c'est bien normal. Tout le monde le ferait. Ouais. Et c'est ça aussi, ça fait partie de l'aventure, ça fait partie de l'exploration. Et c'est même fondamental en fait, parce que c'est dans la difficulté qu'on se forge, c'est dans la difficulté qu'on se nourrit, c'est dans la difficulté qu'on apprend et qu'on en sort grandi.
Et alors d'ailleurs, vous en sortez grandi et l'expédition Under the Pole 3 est loin d'être terminée. On a eu le premier volet avec le récit de ce passage du Nord-Ouest. Ensuite, vous avez mis le cap sur Hawaï. Qu'est-ce que vous êtes parti faire à Hawaï ?
Alors Hawaï, c'était une escale sur la route de la Polynésie française, ouais. Où on est arrivé il y a 10 jours avec le Y. Ouais. On est parti début avril de Sitka en Alaska, et donc on a eu voilà cette première phase de 18 jours et demi précisément pour atteindre Hawaï. On est resté 3 semaines en escale et là on a eu 20 jours de navigation pour faire Hawaï Polynésie.
Où se trouve actuellement Emmanuel, votre
qui
femme,
est à bord avec les enfants.
Avec les enfants. Et vous êtes pressé d'aller les rejoindre pour poursuivre l'aventure.
Ouais, bien sûr. Là, je suis de retour pour 2 semaines en France pour finaliser certains préparatifs là avec l'équipe ici présente. Mais on les rejoint tous, toute l'équipe, dans 15 jours.
Ouais. Cyril Gallu, la suite des réjouissances scientifiques à bord de ce bateau, qu'est-ce qu'ils vont regarder en Polynésie ?
Alors, il y a plusieurs programmes. Il y a un programme sur les grands requins. Ouais. L'idée, c'est de pouvoir faire des plongées longues qui permettent d'observer le comportement de ces animaux, qui sont quand même des animaux extrêmement inaccessibles. Et il y a un deuxième programme, qui est un très très joli programme, sur les coraux profonds. On connaît bien les récifs coralliens, près de la surface, mais on connaît beaucoup moins ce qui se passe dans des zones plus profondes, de l'ordre de 50 mètres par exemple et au-delà. Et en réalité, il y a de nombreuses espèces de coraux qui vivent à ces profondeurs et il y a énormément de choses à découvrir sur ces espèces. Donc le but de ce programme, c'est de mieux les comprendre, de comprendre leur génétique, de savoir peut-être aussi si ces coraux profonds ne serviraient pas en quelque sorte de refuge pour les coraux qui sont plus proches de la surface, ou est-ce que ce sont des espèces complètement différentes ? Il y a plein de questions à aborder.
Et puis Guilin, pour explorer ces fonds marins, il y a aussi un projet, la capsule. Qu'est-ce que c'est ?
Alors la capsule, c'est un projet qu'on va mener dans un an, en Polynésie française également. C'est un projet de plongée à saturation, on appelle ça. C'est-à-dire que on va essayer de bousculer certaines limites qui se posent à nous. Aujourd'hui, si vous voulez, l'homme, dans une quête de science, de découverte, d'exploration scientifique, il se heurte à un problème, c'est que pour explorer les océans, bah avec un scaphandre sur le dos, on va pouvoir plonger quelques heures, voire quelques dizaines d'heures dans le cadre de records, mais ça reste des incursions très brèves. Et plus on va plus profond, plus ce sera bref. Comment aller au-delà ? Comment en fait essayer de faire comme le naturaliste fait en forêt ? Il campe, il observe, il reste longtemps. Et
là, c'est une structure qui vous permet de camper sous l'eau. Ça nous a fait penser au projet d'un certain Cousteau en son temps. Écoutez-le parler en 1960 de la soucoupe plongeante qu'il a développée pour explorer les fonds marins dans l'émission 5 colonnes à la une sur la RTF.
Vous voyez, dans des profondeurs comme celle-là, qui sont accessibles aux plongeurs autonomes, il y a 20-30 mètres, pas plus. Ces magnifiques forêts de Gorgone, de la Guadeloupe, que nous avons admirées pour la première fois avec la soucoupe, eh bien, nous pourrions voir tout ça en scaphandre autonome, mais seulement pendant quelques instants. Parce que la soucoupe peut y rester des heures, peut rester 6-7 heures à croiser, à faire des kilomètres d'exploration. Premier avantage. Deuxième avantage, on peut aller beaucoup plus bas que le scaphandre autonome, puisqu'on peut aller jusqu'à 300-350 mètres de profondeur.
Est-ce qu'elle est assurée de remonter, cette soucoupe que nous voyons descendre ?
Ah bah, j'espère bien. En dehors des plombs de navigation, il y a un énorme plomb de sécurité qui pèse 160 kg, qu'on peut larguer à tout moment. On peut en plus se débarrasser du mercure, donc de toute façon, la remontée est assurée. Une chose qui nous a beaucoup étonnés, vous voyez, les poissons qui se méfient en général des plongeurs, des scaphandriers autonomes, malgré le bruit des moteurs de la soucoupe, ne sont pas du tout effrayés et viennent tourner autour de l'engin.
le commandant Cousteau en 1960, Guylain Bardou. Vous vous sentez dans la lignée du commandant Cousteau. C'est une source d'inspiration pour vous ?
C'est une source d'inspiration monstrueuse, lui, d'autres, Jean-Louis Tienne également. Ouais. Très clairement, je pense que c'est quelqu'un qui a marqué sa génération, qui a inspiré les suivantes. Et il y a énormément de choses à faire, parce que, heureusement, longtemps je me suis dit, on est né trop tard et j'aurais aimé vivre à cette époque. Mais aujourd'hui, je sais qu'on est à une époque formidable où les nouvelles technologies, nous, on a des nouveaux moyens pour faire une nouvelle exploration, plus profond, plus longtemps. Mmh. Et à chaque génération, sa quête.
Pour en savoir plus, à découvrir demain, mardi, à 18h, sur Arte, le documentaire Lumière sous l'Arctique. Et puis, on peut suivre la suite de l'expédition Under the Pole 3 sur le site internet underthepole.com, en lien sur la page du Temps d'un Bivouac. Merci, Guylain Bardou. Bon voyage jusqu'en Polynésie. Et merci, Cyril Gallu. Bon retour à Concarneau.
Merci à vous.
Dans un instant, notre invitée Mélusine Malander nous emmènera en moto en Iran, au Kurdistan ou encore au Rwanda, où elle est allée interroger les femmes qu'elle croisait sur sa route sur la notion de liberté.